Le podcast pour un plein épanouissement affectif et cognitif est un podcast pour vous, les professeurs des écoles, qui souhaitez plonger au cœur de la pédagogie Montessori et de la neuroéducation pour vous épanouir en classe et vous sentir compétent et fier de votre travail. Je suis Céline Guerrero, enseignante et formatrice Montessori. Chaque vendredi, soit j'interview un expert, soit je prends le micro, soit je vous propose un épisode questions-réponses où je réponds à une de vos questions. Ma mission est de permettre à chaque enfant et à chaque adulte qui l'accompagne de développer son plein potentiel. En plus du podcast, vous pouvez recevoir votre concentré Montessori chaque vendredi dans votre boîte mail pour ne plus vous sentir seul dans cette transition et vous poser les bonnes questions. Le lien pour vous inscrire est dans les notes de chaque épisode. En route vers un plein épanouissement affectif et cognitif. Juste avant de laisser place à mon invité du jour, je vous rappelle que si le langage est un sujet qui vous intéresse, si vous cherchez à enrichir le langage oral de vos élèves dans votre classe en maternelle, je vais organiser un webinaire et vous pouvez vous inscrire gratuitement. Ça sera le 3 décembre. Je vais répondre aux questions comme comment l'enfant acquiert le langage, comment enrichir l'environnement des jeunes enfants pour leur offrir toutes les chances de développer un langage riche, quel est notre rôle dans l'acquisition du langage de nos élèves et quels sont les 6 principes de la recherche qui participent à l'enrichissement du langage. Voilà, si toutes ces questions vous intéressent, vous pouvez vous inscrire pendant le mois de novembre et le webinaire, ça sera le 3 décembre. Donc, je vais mettre le lien d'inscription dans les notes de l'épisode. Olivia est éducatrice Montessori et sa mission est de rendre la pédagogie mise au point par Maria Montessori accessible et pratique, en permettant aux familles d'adapter l'environnement des enfants de 0 à 6 ans. Elle est l'auteure du blog Homeflow et la créatrice de la marque Ma Vie Pratique. Olivia nous a parlé avec passion de la vie pratique, du développement de l'enfant, de la concentration, de l'autonomie, de l'ordre. Que vous soyez parent ou enseignant en maternelle, vous allez vous régaler. Je laisse place à ma conversation avec Olivia. Bonjour Olivia.
Bonjour Céline.
Alors je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui sur le podcast pour parler de vie pratique. C'est bien ça.
On va parler de vie pratique. Il y a de quoi en faire un podcast entier sans problème, ouais.
Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu veux bien te présenter pour les auditeurs, s'il te plaît?
Oui. Donc moi, je m'appelle Olivia Liquois. Je suis éducatrice Montessori. J'ai été formée au Maria Montessori Institute de Londres, la formation 3-6 ans. J'ai aussi complété avec des modules qui étaient proposés là-bas pour le 0-3. J'ai pratiqué en école toujours en Angleterre, dans une école à Annie, et puis je suis revenue en France. J'ai encore été éducatrice, et puis en fait, après, j'ai pris un peu de, un peu plus de distance pour proposer en fait d'accompagner les parents mais aussi les écoles faciliter un petit peu le lien entre ce qui peut se passer à la maison et ce qui se passe à l'école, tout d'un côté en essayant d'accompagner les parents pour mieux organiser les espaces en les désencombrant et en les réorganisant, en injectant les bonnes activités qui étaient adaptées à l'enfant à la maison, et puis en même temps en organisant et en animant des ateliers, des conférences. Voilà, aujourd'hui je continue de faire ce coaching là en même temps je continue d'animer des ateliers, et puis j'ai créé cette marque qui est un petit peu le résultat finalement, qui est complètement le résultat de ce parcours et de ces constats qui ont été encore plus visibles au moment du Covid, où j'ai voulu vraiment créer une marque dédiée à la vie pratique pour aider les parents, les assistants pédagogiques, les maisons d'assistantes maternelles, les éducateurs aussi qui démarrent avec Montessori, à avoir des solutions vraiment packagées, parce que la vie pratique, c'est pas entre guillemets que la vie quotidienne en miniature, et c'est d'ailleurs pas ça du tout, hein. C'est en effet à la taille et à la force des enfants, mais c'est surtout un cadre dans un cadre. Donc voilà, donc ma vie pratique, c'est le projet aujourd'hui qui est mon projet et qui propose ces outils-là.
Super. Et je crois que je viens de comprendre en fait le sens de home flow. À cause du flow de Miali, tu sais, il a un nom
Absolument.
Très compliqué à prononcer, mais en fait, ça vient de là, en fait, home flow.
Oui, moi, j'ai, les deux, la partie conseil, c'est plutôt home flow Montessori. Il y a aussi le compte Instagram qui donne pas mal de beaucoup de choses. Et c'était cette idée c'était cette idée de, enfin c'est toujours cette idée d'être dans cette dans cet état de pleine concentration. Si on résume le flow, voilà, qui se traduit par flux, mais qui est quand même moins, qui résonne moins, qui a moins cet écho de, voilà, de toutes les énergies de l'enfant qui vont être engagées pour servir un but. Et les activités Montessori, et puis celles particulièrement aussi de vie pratique, voilà, elles permettent à l'enfant de vivre cet état-là. Voilà. Et c'est pas, ça, c'est déjà arrivé de voir un enfant oublier d'aller aux toilettes tellement il est concentré, en fait, sur son activité. Hein. Ça, c'est l'anecdote, mais voilà, il y en a, voilà. Donc, ça vient de là, en effet, et ma vie pratique, eh bien, c'est la vie pratique et c'est vraiment fondé sur ce que Montessori nous a apporté par rapport à ça, mais avec, voilà, une dimension culturelle très forte par rapport à la façon dont on vit aujourd'hui et aller chercher des choses qui sont vraiment directement issues de notre culture, qui vont ensemble et qui vont être adaptées au quotidien de l'enfant.
Super. Alors explique-nous un peu l'importance de la vie pratique dans l'enfant. Et je crois que tu accompagnes les parents par tranche d'âge pour les enfants de 0 à 1 an, 2, 3 et 3, 5. Évidemment l'enfant, le bébé qui grandit n'aura pas les mêmes besoins, mais quelles sont du coup les spécificités pour toi? Voilà, quand tu accompagnes des parents, voilà, qu'est-ce que tu veux leur transmettre? C'est en 2h30, je crois. Qu'est-ce qui compte vraiment pour toi? Avec quoi tu veux qu'ils repartent?
Oui, alors moi, quand je fais de l'accompagnement, c'est des ateliers, voilà, c'est toujours quelque chose qui est assez sur mesure, même si j'ai quand même développé une forme de méthode par rapport à ça, en fonction de l'âge de l'enfant. Si on est sur du conseil dédié à un tout petit, cette méthode, elle va pas vraiment s'appliquer, dans le sens où on fait vraiment un atelier qui va expliquer aux parents un petit peu quelles sont voilà les étapes qui sont traversées par l'enfant. Mais il y a toujours, en effet, moi ça a toujours été comme ça que j'ai fonctionné. J'ai toujours utiliser la vie quotidienne au même titre que voilà les professionnels de la de Montessori le font aussi, si tu veux, pour même un, on va prendre l'exemple pour un bébé par exemple, il va avoir un intérêt absolument il va y avoir quelque chose de merveilleux à avoir une panière avec une mandarine, un citron et une pomme, enfin voilà, parce que et encore on va plutôt prendre une mandarine, un citron, une mandarine, pardon, une pomme et je sais pas, un autre fruit qui aurait une texture, un kiwi, enfin voilà, un kiwi par exemple. Bref, avec la vie quotidienne, si tu veux, il y a à la fois la chose qui compterait peut-être le plus, quels que soient les âges, c'est qu'il s'agit de vraies choses. Et donc, si le rôle de l'accompagnateur, de l'adulte, de l'éducateur, du parent, est d'aider l'enfant à s'adapter dans le monde, puisque l'enfant, il a deux missions avant ses 6 ans, hein, c'est vraiment de se construire, donc ça passe par l'autonomie, et de s'adapter. Et donc, ces objets de la vraie vie sont déjà là pour donner à l'enfant ces messages, ces informations qu'il va pouvoir retrouver. Donc, je suis obligée de parler tout de suite de plastique, parce qu'en fait, à l'opposé du plastique, qui aujourd'hui est quand même nous envahit, même si maintenant on est passé aussi à du plastique recyclé ou biodégradable, mais même en fait, en termes de texture pure, en fait, le plastique ne donne pas d'informations comme ça à l'enfant qui va lui permettre d'avoir quelque chose de sensoriel intégré, qui va pouvoir retrouver ensuite dans la vraie vie. Donc voilà. Donc,
Quand tu as parlé des fruits, j'ai pensé aux fruits, tu sais, en feutrine, là, les jouets qu'on voit souvent. J'avais pas pensé au plastique, j'avais pensé, tu sais, les petits légumes et les fruits là en feutrine. Mais du coup, explique aux auditeurs pourquoi, en fait, ça. C'est pas qu'il n'y a pas d'intérêt,
mais pour un bébé, très franchement, donner au bébé vraiment juste déjà des choses à toucher qui sont dans des matériaux différents, qui ne représentent qui sont vraiment en fait faciles à appréhender, à saisir et à pouvoir peut-être toucher pendant pour vraiment intégrer les sens. Là, il peut s'agir d'un hochet, il peut s'agir d'une balle, il peut s'agir, voilà, en fonction de là où en est l'enfant, en fait, au tout début. Je vais pas refaire tout, hein, parce que, voilà, au tout début, on est sur la vision, on est sur du mobile, et puis petit à petit, voilà, si on va donner à l'enfant déjà trois formes qui sont identiques et qui ont une couleur différente, et ben on va donner à l'enfant, ça dépend du message qu'on veut donner. Dès que l'enfant commence à avoir plutôt 1 ou 2 ans, là, je parlais en effet de vraiment du tout petit, mais déjà là, c'est, je veux dire, on n'est pas obligé d'aller acheter des choses incroyables. Voilà, déjà en donnant à l'enfant tout simplement à voir une plante, un fruit, quelque chose comme ça qui a une teneur sensorielle et qui se distingue franchement de l'environnement, ça lui donne déjà des choses. Et ensuite, petit à petit, ben voilà, on va essayer toujours de garder l'ordre, cette période sensible de l'ordre en fil conducteur, pour pouvoir toujours donner à l'enfant des éléments de vie pratique, de la vie quotidienne, simplement pour qu'il puisse commencer à intégrer ses sens et ce qu'il va ressentir, mais tout en le faisant correspondre à quelque chose de la vraie vie. Donc là, voilà, on lui apporte plus que juste des sens, et en les classant, en faisant par exemple un petit panier avec, des ustensiles pour le thé, un panier avec des choses dédiées à l'hygiène, un panier avec justement des fruits et légumes, on lui donne aussi cette capacité à pouvoir encore être intéressé par... La partie sensorielle, la forme, etc. Mais surtout, il va classer. Donc, la vie pratique, voilà, c'est aussi cette... Et puis ensuite, il va surtout être très vite animé par la possibilité de pouvoir manipuler ces choses-là. Et donc, ça, c'est toujours, toujours, voilà, avec en arrière-plan, enfin plus qu'en arrière-plan, avec la période sensible en fait qu'on veut nourrir. Et donc la coordination de mouvement à partir de 1 an et demi, elle est vraiment très très vive, et l'enfant qui veut s'adapter à notre monde, il veut pouvoir manipuler des choses. Et donc très vite, cette vie pratique, si elle est bien organisée, elle se présente sous forme de micro-activités ou de petites activités qui vont permettre à l'enfant d'acquérir des gestes préliminaires, qui vont lui permettre de se sentir plus en confiance, déjà plus autonome. Il s'agit tout simplement de pouvoir ranger une chaise sous une table, de pouvoir accrocher un manteau à un porte-manteau, de pouvoir enlever et mettre ses chaussures correctement. C'est infini, hein, la vie pratique, c'est la vie en fait. Donc c'est une multitude de choses qu'on va adapter aux besoins de l'enfant, et puis qu'on va mettre dans un format qui correspond à son challenge, tout en lui apportant une petite difficulté. Et donc ce qui est très intéressant avec la vie pratique, dès lors que l'enfant commence à avoir à s'approcher des 2 ans, et qu'il a vécu également, j'espère que tout le monde est encore là, mais voilà, le pic du langage, il commence à vraiment avoir une pensée de plus en plus structurée. Mais même avant ça, en fait, il voit ses aînés se servir de cette vie pratique. Il se rend bien compte avec sa conscience à lui, mais qu'il est dans un monde, dans une société, dans une mini-communauté. Et donc, cette vie pratique, elle envoie ce message de « il y a des choses à faire pour trouver sa place, il y a des choses avec un but, et je vais te les proposer pour que tu puisses y avoir accès et atteindre ce but ». Et ça, ça c'est magique en fait. Ça, c'est magique, voilà. Donc, ça sous-tend d'autres bénéfices extraordinaires. Mais si je dois un petit peu résumer, mais sublimer aussi ce que peut donner la vie pratique, c'est cet accès en fait au monde pour vraiment y trouver sa place en y devenant autonome et en même temps en y participant. Donc à différents degrés, il y a toujours la vie quotidienne, et là j'ai parlé d'ordre, j'ai parlé de langage, j'ai parlé de coordination de mouvement, j'ai parlé de développement social. En fait, avec la vie pratique, on parle de toutes les périodes sensibles, qu'on ait 2 ans ou 6 ans, on a toujours un très fort intérêt, même si cet intérêt il est capital pour passer ces étapes d'autoconstruction. Ensuite, l'intérêt, il est il est toujours aussi capital, mais on va, voilà, on met pas la table à 2 ans et demi de la même manière qu'on la met à 5 ans. Voilà, à 2 ans et demi, on la met aussi pour apprendre. À 5 ans, on la met parce que on aide les personnes autour de nous qui ont besoin d'un peu d'aide.
J'adore. J'ai plein de questions là qui me viennent en même temps. Mais la première là, qui me vient, c'est une enseignante qui nous écoute et qui ne connaît pas encore beaucoup Montessori, mais qui se dit, ah oui, mais en fait, la vie pratique, la vie de tous les jours, je le fais pas, ça, moi, dans ma classe, et hop, ça lui donne des idées. Si elle est dans en grande section, par exemple, parce que j'ai souvent entendu dire j'ai mis en place Montessori dans ma classe un peu tard, et du coup mes grandes sections ne sont attirées que par la vie pratique et délaissent un peu les autres activités, le langage, écriture, mathématiques, tout le reste. Quel est ton point de vue là-dessus sur un enfant qui a manqué d'opportunités par rapport à tout ça, et qui du coup en grande section utilise tout son temps pour rattraper un peu ces moments perdus?
Est-ce qu'on est dans une configuration où il y a des classes d'âge mélangées, ou est-ce qu'on est que dans une grande section?
Dans ma tête, classe d'âge mélangée, petit, moyen, grand.
C'est délicat. J'ai pas forcément une réponse à ça. Je pense que c'est essentiel d'avoir de la vie pratique dans sa classe. Après, il s'agit juste d'une question. Enfin, juste, il s'agit surtout d'une question de rythme, de routine aussi, et d'atelier. Est-ce qu'il y a des moments dédiés? Est-ce que il y a peut-être aussi un... En fait, dans Montessori, on sait que il y a une approche très transversale, mais on sait surtout aussi quand même, et c'est toute la subtilité de la formation et de l'accompagnement de l'enfant dans ses rythmes aussi, que avant de faire une activité, l'enfant doit en avoir fait une autre préalable. Parce qu'il y a toujours une difficulté. Voilà. On ne passe pas non plus tout de suite aux mathématiques si on n'a pas compris des notions. Voilà. Et donc, la vie pratique, clairement, est quelque chose qui, comme je l'ai dit, voilà, anime les tout-petits, quel que soit leur âge, toujours. Parce que voilà, c'est leur façon de prendre leur place et de se concentrer, en fait. Hein. On est toujours... Donc, je pense que c'est... vraiment de toutes les façons une bonne chose, parce que ce que ça apporte en termes de concentration, c'est très très bénéfique. Nous, on a vraiment vu en école Montessori des enfants de 5-6 ans continuer à faire beaucoup beaucoup de vie pratique et y revenir, et parfois revenir à des exercices faciles, parce que c'est revenir à une zone de connu aussi dans laquelle on se sent bien. Donc après je crois que c'est plus subtil. C'est plus subtil, c'est dans cette capacité à pouvoir faire le lien entre une activité de vie pratique, une autre activité, et puis encore une autre, pour lui dire mais j'ai vu que tu aimais ça, est-ce que tu sais que dans cette activité là on retrouve ça, est-ce que tu veux que je te montre? Enfin voilà, donc je pense dans cette capacité, si l'éducateur bien sûr a le temps, la disponibilité, et puis aussi parce que je sais que c'est à combien c'est difficile quand on n'a pas forcément l'environnement adéquat, mais surtout aussi l'autre personne, s'il y a une autre personne qui peut tenir un petit peu l'ambiance et les autres enfants, ben voilà, elle d'aller vers cet enfant-là pour réussir à ne pas lui enlever ses activités du pratique, mais à l'emmener sur son chemin, qui, en se posant la question au préalable de qu'est-ce que je pourrais, voilà, mais en gardant un petit peu cet aspect de, enfin voilà, d'attraction, pour aller l'attirer vers une activité un peu plus challengeante, mais en gardant en tête comment elle peut être un pont par rapport à ce que l'enfant aime faire. Ça peut être parfois des petits détails, mais il faut être créatif par rapport à ça. Je sais pas si ça répond un petit peu.
Ouais. Et ce que tu as dit de très intéressant, c'est la progression, en fait. C'est que, voilà, une activité ne va pas arriver comme ça, comme un cheveu sur la soupe. Il y a vraiment toute une progression dans les présentations, dans ce qu'on va proposer aux enfants en vie pratique, c'est bien ça?
Absolument. C'est vraiment, voilà, c'est pas, c'est, on peut sauter, entre guillemets, une activité, ou rester, ou revenir parfois en arrière sur une autre activité. Et puis, il y a surtout des airs qui communiquent en même temps. C'est pas parce que l'enfant fait de la vie pratique qu'il peut pas faire du langage, ou avoir ou évidemment les activités sensorielles. C'est là que, voilà, c'est formidable de pouvoir avoir un environnement Montessori complet, mais y a évidemment une progression et il y a toujours cette question à se poser, qu'est-ce que l'enfant doit avoir fait avant pour pouvoir faire ça de façon voilà, à être vraiment dans quelque chose d'adapté.
Oui, super. Et dans le monde aujourd'hui, il y a de plus en plus d'objets, on a de plus en plus de choses autour de nous, on est un peu envahi par tous ces objets. Et cet espace un peu trop encombré, il peut nuire au développement de l'enfant. Donc comment, un parent qui nous écoute, qu'est-ce que tu lui conseillerais par rapport à ce désencombrement?
Eh bien, que si déjà ce parent écoute ce podcast, c'est qu'il y a déjà une sensibilité et que j'ai envie de dire que les 90% sont presque déjà là. Parce qu'ensuite, il s'agit entre guillemets, hein, de se poser des questions. Donc parfois, en effet, être accompagné, ça peut aider parce que on le sait, les parents sont. Il y a beaucoup de doutes et à juste titre, hein, dans le sens où on ne sait pas très bien, enfin, on y a énormément aussi de livres, de conseils, je mets tout ça avec des guillemets, hein, d'émissions, d'articles, et puis surtout aussi de messages marketing. Donc, on est quand même, il y a une offre d'un côté qui est énorme, qui peut être bienveillante et parfois, en fait, totalement à côté de la plaque. Et je pense que les parents, sont un petit peu noyés par rapport à ce trop plein d'informations. Donc, revenir à des questions vraiment simple de type déjà est-ce que je l'aime bien moi, parce qu'en fait déjà se fier à sa propre intuition et à ses propres constats, voilà. Si l'enfant en revanche adore cet objet parce qu'il s'y est énormément attaché, il s'agit pas de lui enlever ça, mais on peut quand même, il y a beaucoup de choses, donc dans l'environnement, l'ambiance, la chambre de l'enfant, on peut quand même se poser la question de qu'est-ce que je peux enlever, et en se demandant si on aime bien ce truc-là, et en se demandant aussi ce qu'il apporte à l'enfant. Donc est-ce qu'il lui donne des informations, est-ce qu'il est assez simple, quelles sont les informations. Donc un objet un objet qui donne des informations de son, qui invite à la manipulation, qui en même temps permet d'écouter des musiques et puis va faire des sons d'animaux et qui va envoyer de la lumière, clairement, là, en fait, et ça, c'est quand même le commun aujourd'hui de ce qui constitue les magasins et souvent les chambres des enfants. Se poser la question de ça et peut-être revenir, enlever tout ce qui présente trop d'informations d'un point de vue sensoriel. Enlever peut-être aussi, surtout, tout, enlever ce qui est cassé, ce qui ne fonctionne pas, ce qui ne permet pas à l'enfant de faire seul son activité. Commencer déjà par ça, je pense que c'est déjà une première étape. Si on voit aussi qu'il y a des objets qui sont en double ou qui présentent vraiment exactement la même chose, on en met de côté, puisque c'est pas forcément la peine d'avoir trop de choses, hein, constitue vraiment, c'est le premier obstacle. C'est pour ça que moi, en faisant mes ateliers one-to-one, là, individuels, c'est vraiment pour commencer à accompagner dans ce désencombrement qui est vraiment, ça n'existait pas à l'époque de Montessori. Aujourd'hui, notre problème principal, je pense, c'est d'avoir trop de choses, de recevoir beaucoup de cadeaux et de ne pas vouloir, et c'est normal parce qu'on a envie de rester assez gentil et on se pose pas la question à chaque fois qu'on reçoit un cadeau si on doit le jeter, le donner ou donc on le garde. Néanmoins, il y a ce premier tri-là à faire et on peut aussi se poser. Donc, si je résume, est-ce que l'objet, l'activité a du sens pour moi, est-ce qu'elle présente trop d'informations pour l'enfant, est-ce qu'elle est cassée ou incomplète, et est-ce que le challenge pour l'enfant est adapté, est-ce que c'est trop facile maintenant, ça fait 2 ans que c'est là et l'enfant ou est-ce que c'est trop compliqué. Et donc ça va aussi avec surtout est-ce que l'enfant s'y intéresse, tout simplement. Pas donner trop de choses pour pas, mais si déjà on commence par se poser ces questions là et on se dit, ok, c'est bon, je peux commencer à faire un tri. Et si l'enfant est plus âgé, on peut aussi commencer à faire cette démarche avec lui. en disant, voilà, on va peut-être donner quelques objets à des enfants qui en ont besoin, lui montrer peut-être des associations, vraiment le rendre partie prenante pour pas lui donner l'impression qu'on lui a enlevé des choses, alors qu'il est en pleine capacité de voir un petit peu ce qu'il y a dans sa salle de jeu ou dans sa chambre, voilà. Mais en tout cas, avant d'aller chercher des nouvelles activités, déjà de rendre vraiment l'environnement clair, plus ordonné et adapté pour que l'enfant soit dans lui-même puisse aller choisir et faire ses activités de façon structurée, parce qu'aujourd'hui, voilà, trop d'activités, c'est vraiment peut-être ce qui fait qu'on a des gros problèmes de concentration.
Et regarde, c'est la même chose pour les adultes, trop d'informations. Là, on était sur trop de jouets pour les enfants, mais pour les adultes, ça va être trop d'informations, et du coup, on ne sait plus, enfin, il y a trop de choses, quoi. On est tout le temps distrait par les notifications du téléphone, tout ça, enfin, c'est le problème est le même, en fait.
Absolument, bah, ce livre, Le Flow, il n'est pas destiné aux petits-enfants, hein. Il est destiné au monde entier. En effet, ce qui nous fait du bien, on peut se poser la question de ce qui nous fait du bien, c'est l'enfant aussi, il a besoin d'être, il l'exprime pas et il ne l'a pas forcément intellectualisé, mais si on lui donne un bureau avec des formes, des dessins, des couleurs, et qu'on lui demande en même temps d'apporter un travail sur ce bureau et qu'il y a plein de foutoirs dessus, il va avoir du mal au même titre que nous, on va pas avoir envie de poser une feuille ou un ordinateur sur un bureau qui est encombré de choses de la veille et de voilà. Donc c'est tout à fait pareil, et ce cadre il commence par voilà le cadre global, mais qu'on va pouvoir aussi réduire au cadre de la table et du tapis et ensuite de l'activité.
Et la recherche a montré que trop d'affichage, ça perturbait la concentration des enfants. Donc, les recherches de Steve Masson. Donc, je me dis qu'au niveau des objets, ça doit être la même chose, l'encombrement. Et quand on désencombre, du coup, ça permet l'ordre. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de l'ordre et de la période sensible de l'ordre et tout ça ?
Ah bah oui, l'ordre, j'en parle avec passion et surtout avec sérieux, dans le sens où s'il y a vraiment une période sensible que l'on peut comprendre et que l'on peut essayer de proposer à l'enfant dès la naissance, c'est ça. Mais encore, faut-il en avoir conscience que cet ordre apparaît dans la vie de l'enfant dès la naissance jusqu'à ses 5-6 ans, d'une façon différente. Mais comme le langage, c'est une des périodes sensibles les plus longues et les plus importantes. Au tout début, à la naissance, hein, l'ordre apparaît comme un aspect qui va permettre à l'enfant de se sentir en sécurité. Ça va être l'ordre dans le fait que la maman reste présente, par exemple, puisque l'enfant ne peut pas deviner qu'elle n'est pas partie au bout du monde, rien qu'en étant dans la cuisine, donc dans cette présence. Mais ça va être aussi, par exemple, par rapport au langage, à la langue. Si une personne parle de façon un petit peu bizarre, une langue qui n'est pas sa langue maternelle avec des accents, on est dans quelque chose qui est incohérent. Donc, c'est vraiment l'ordre au sens de la cohérence. Un couple qui malheureusement se crie dessus, c'est un vecteur de désordre, d'incohérence. Donc tout ça, ce sont des choses qui vont perturber l'ordre intérieur de l'enfant. Donc c'est vraiment Donc là, je parlais de plus de comportement, mais il y a évidemment aussi tout de suite cet ordre extérieur. Donc un enfant, je sais pas, qui va être pour faire le lien entre le comportement et l'environnement, mais aussi qui va être changé un coup dans la cuisine, un coup dans la voiture. Un coup, voilà, il va pas comprendre. Donc c'est aussi donner les premiers repères à l'enfant pour qu'il comprenne comment fonctionne son environnement. Donc ça peut passer, c'est pour ça qu'on parle un peu de routine. Après, chacun fait comme il veut, comme il le sent, parce que le plus important, c'est d'abord soit d'être cohérent avec ses propres choix, donc déjà d'être aligné en tant qu'adulte. On va pas faire des choses parce qu'on les a lues dans un livre ou écoutées dans un podcast. La première chose, c'est d'être aligné, mais on peut quand même se dire que voilà, avec quoi on est aligné et qu'est-ce qui va permettre à l'enfant de comprendre un peu d'avoir des repères. Donc voilà, une chambre avec une vue qui est plus épurée, ça va, c'est ce qui va nourrir aussi l'ordre de l'enfant. Donc sa capacité à pouvoir distinguer les choses. Il développe d'abord sa vision. Et donc forcément, cette vision, elle se développe dans un certain ordre. Si on donne à l'enfant trop de choses très vite à voir, il va avoir du mal à déceler les couleurs primaires, les couleurs secondaires, etc., etc. Donc c'est cet ordre-là. Et puis, c'est l'ordre... Je vais faire court, mais c'est plus qu'une période sensible, c'est aussi une tendance humaine. Donc, on a tous tendance à vouloir et pouvoir s'orienter. Donc, l'ordre, c'est aussi cette capacité à pouvoir nous... Donc, je parlais des repères, hein, mais quand on arrive dans une nouvelle ville, enfin, surtout dans un nouveau pays, où on est encore moins... à même de pouvoir se repérer, on va ouvrir une carte. Donc voilà, donc nous, on va essayer de donner à l'enfant des clés. Donc dans une ambiance Montessori, hein, où les choses sont calculées de A à Z pour être parfaitement voilà, à leur place, on va par exemple dans une culture où on lit de gauche à droite, mettre les activités plus faciles, notamment dans la vie pratique, hein, on est vraiment dans les questions de... Enfin, non, à tous les niveaux, en fait, à toutes les aires, je veux dire, on met les activités plus faciles, celles par lesquelles l'enfant va commencer à gauche, et puis de plus en plus complexes vers la droite, parce que ça respecte aussi le sens de l'écriture, ça respecte le sens des aiguilles d'une montre, bref, de gauche, enfin voilà, on est dans quelque chose d'ordonné. On va aussi donner, on va aller plus loin, on va organiser les choses avec des codes couleurs pour donner à l'enfant ces notions d'harmonie. Donc, moi, en fait, avec ma vie pratique, c'est vraiment ça que j'ai voulu faire, hein, en allant plus loin. C'est vraiment, par exemple, la balayette. J'ai à la fois ajouté une petite boîte avec des choses à l'intérieur pour qu'il y ait le contrôle de l'erreur. Et dans ce contrôle de l'erreur, on est sur des petites étoiles qui ont la même couleur que la balayette. De la même manière que voilà, chaque kit est organisé par couleur. Quand on va dans une petite classe Montessori et qu'on voit, par exemple, l'ère de vie pratique liée à... Ah, je fais briller, voilà, le cuivre, l'argenterie, etc. On est vraiment, voilà, le chiffon comme l'éponge correspond à la même couleur que celle de l'activité en question. Et c'est ça, c'est pas parce que on va trop loin dans notre... même si c'est une joie, en fait, de pouvoir aussi nous-mêmes organiser les choses de cette façon-là avec soin et beauté, parce que l'ordre, c'est aussi prendre soin des choses et de faire attention à ces notions d'esthétisme, etc. Bref, tout est lié. Mais c'est donner à l'enfant des clés pour qu'il puisse repérer tout seul que cette activité, elle représente ça, que cet ensemble-là correspond à cette activité et que ça représente un ordre, tout ça. Voilà, pas grâce à ces codes qui vont à la fois la rendre harmonieuse, mais qui vont lui donner ces clés-là. Alors, je sais pas si j'ai répondu, mais voilà, l'ordre, il est partout, il est tout le temps, et il donne à l'enfant voilà, cette capacité d'être d'abord rassuré, et puis de pouvoir s'orienter, et puis de pouvoir prendre soin des choses et cultiver lui-même cet ordre, qui est une période sensible, qui est une tendance, et qui va lui permettre se structurer, d'avoir un état d'esprit ordonné, puisqu'il va classer toutes les informations qu'on va lui donner, toutes les expériences qu'il va le recevoir, il va les classer. Donc, autant proposer ces expériences de façon la plus ordonnée possible. Donc, voilà. Et puis, juste pour finir, et voilà, par rapport à des espaces qui sont très encombrés, etc. Donc, ça forcément, c'est beaucoup plus difficile, hein, de faire, d'évoquer, de donner... un ordre dans un environnement où il y a trop de choses. Et surtout, aujourd'hui, les études montrent que moins il y a de choses, plus il y a de place pour la créativité. Donc voilà, ça va vraiment plus loin que simplement l'approche Montessori. Aujourd'hui, vraiment sur les neurosciences, la recherche, etc. Enfin, ça, tu pourras sûrement compléter mes propos par rapport à ça, mais il y a vraiment ces notions de libérer de l'espace à l'extérieur pour en libérer à l'intérieur.
C'est passionnant tout ce que tu nous dis et je voudrais pas que ta passion te fasse rater ton train. On se refera un autre épisode, voilà, parce que tu as tellement de choses, tellement de choses à partager. Mais on sent ta passion. C'était génial. Alors si tu veux bien, Olivia, on va terminer avec un livre, une citation et un. J'imagine que tu vas choisir le coup de cœur entre le coup de cœur et le coup de gueule, vu comme tu es passionnée. Voilà, on termine par ces petites choses là et au pire, on aura l'occasion de se refaire un épisode parce que tu as tellement de choses à partager.
Oui, avec plaisir. Écoute, c'est oui, avec plaisir. Je pense que ici, on a déjà dû parler du livre Le secret de l'enfant, enfin l'enfant en fait de Maria Montessori. Mais moi, j'en parle simplement parce qu'à l'époque où j'ai découvert cette approche, on n'en parlait pas du tout, on parlait pas de la pédagogie de Montessori comme on parle aujourd'hui. Voilà, donc j'ai été intuitivement poussée à aller voir de quoi il s'agissait, et à cette époque-là il y avait simplement les livres de Maria Montessori, et quand j'ai lu l'enfant, j'ai été touchée au cœur et un peu prise au bas du ventre, parce que ce livre m'a particulièrement parlé à ma sensibilité, celle du petit enfant intérieur qui est présent chez tout le monde. Donc j'invite tout le monde à le découvrir avec ses yeux d'enfant, voilà, le téléphone, je suis désolée, les enquêtes. Et le coup de cœur, c'est un autre livre, je suis désolée Céline.
C'est pas grave, on entend juste c'est un tout grave. Petit peu.
Je suis pas chez moi, je n'ai pas de téléphone fixe chez moi. L'autre coup de cœur, c'est un autre livre, et c'est celui de Simone Davis qui s'appelle Le tout petit Montessori, je te montre là, mais qui donne des clés très très pratiques à n'importe, enfin aux parents en fait, mais aussi aux éducateurs, sur en se penchant particulièrement sur l'enfant de 2-3 ans, donc le tout petit Montessori. C'est aussi un livre, mais ça a été vraiment un coup de cœur parce que je trouve qu'il tire son épingle du jeu par rapport à tous les livres qui ont été un peu dérivés de l'approche pour essayer de la vulgariser un maximum. Celui-là, il rend vraiment hommage à la théorie en la rendant pratique. Et moi, c'est avec cette vision-là et cette mission-là que j'approche, que je développe mon approche et mon projet, c'est-à-dire rendre pratique toute la partie essentielle et profonde qu'est l'approche Montessori. Et Le tout petit Montessori de Simon Davis est un livre qui permet d'aller vers ça très très facilement.
Super. Et j'imagine qu'il a été traduit en français.
Oui, absolument. Voilà. Ouais.
Super.
Il a été traduit dans beaucoup de langues. Il est illustré, il est doux, il est pratique, il est honnête, il est très professionnel surtout. Elle est vraiment, elle est éducatrice Montessori et elle vit à Amsterdam et c'est en Hollande, c'est une personne très chouette.
Génial. Bon, ça rajoute encore un livre dans ma liste de lecture.
Voilà. Et une citation. De Montessori que j'aime bien, enfin qui me paraît d'à propos, même si tout est à propos, qui dit lorsque nous comprendrons tout ce que l'enfant acquiert par lui-même, nous saurons mieux ce que peut devenir l'homme. Ça c'est aussi parce que ce qui moi peut-être me touche personnellement et fait que je fais ce que je fais aujourd'hui, c'est peut-être parce que je pense que l'autonomie est est au début de tout, en fait. Et pouvoir faire par soi-même, c'est pouvoir devenir, en fait, soi-même. Donc voilà pourquoi je cite cette phrase-là.
C'est une très belle conclusion. Merci beaucoup, Olivia.
Écoute, merci à toi, Céline.
En plus de l'ordre, de la vie pratique, de l'autonomie, de la concentration, Olivia a abordé très rapidement, a évoqué très rapidement le langage. Si le langage est un sujet qui vous intéresse et vous aimeriez pouvoir enrichir l'environnement de votre enfant pour lui offrir toutes les chances de développer un langage riche, si vous voulez lui offrir l'opportunité de construire des fondations solides qui lui seront utiles toute sa vie, je partage un dossier collaboratif sur le langage pour les parents d'enfants entre 0 et 6 ans. Donc je vais mettre le lien aussi dans les notes de l'épisode et je vous laisse aller voir si c'est un sujet qui vous intéresse. Si vous êtes encore là, c'est que vous avez apprécié cet épisode. Alors pensez bien à le partager à vos collègues et à vous inscrire pour recevoir la news du vendredi avec votre concentré Montessori réservé aux abonnés. Le lien est dans les notes de l'épisode. À la semaine prochaine !